Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre chroniqueur Mathieu Tessier. Salut Mathieu.
Bonjour Arlette, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, ben, tu ne feras pas de chronique parce que tu vas avec moi recevoir deux femmes.
Tu m'as muselé.
Très important. Oh, oui, mais
parce que tu avais des belles invitées.
Oh, oui, j'ai des belles invitées. Nous avons donc en premier lieu Claudia Morissette, qui est rédactrice en chef du magazine Les Explorateurs, et puis Lynn Morissette, cofondatrice et chef scientifique du projet Mission Milton. Mmh. Et ensemble, on va parler de leur travail respectif et puis de la campagne en cours Défi Jeunesse, 1000 gestes pour la nature. Quand on dit Défi Jeunesse, tout le monde peut y aller, hein, parce qu'on peut les accompagner, tous ces jeunes, et en faire quelque chose aussi. Ça va être formidable. On va enfin parler quelque chose de très important. Voilà. Donc, pour l'instant, on part en musique avec Joël Saint-Pierre qui nous chante Jour doré.
Oui.
Le ciel est trop noir, qu'une grande toile voile les étoiles. Doucement mon corps s'apaise et s'endort pendant que je rêve au jour qui se lève.
Est-ce que nous sommes avec Claudia Morissette? Claudia?
Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir.
Mais pareillement, Madame Farah, le plaisir est pour
moi. Non. Alors là, on arrête tout de suite. Appelez-moi Arlette.
Plaisir.
Non, mais alors là,
d'accord,
Madame Farah, non, mais qu'est-ce que c'est? Même les auditeurs ne savent même pas que c'est mon nom de famille.
Oh là là, j'espère que je n'ai rien dévoilé.
Alors, on va parler bien sûr d'une chose extraordinaire, Défi Jeunesse, 1000 gestes pour la nature.
Mmh. Oui,
et
tout
puis,
à fait.
Qui est pour la deuxième année consécutive. Mais d'abord, puisque c'est vous qui en êtes la rédactrice en chef, on va parler du magazine Les Explorateurs.
Bien sûr, avec plaisir. Est-ce que vous connaissez un petit peu notre publication, nous?
Oui,
on s'adresse au premier lecteur.
Oui. Mais qui dit premier lecteur, des fois, c'est le plaisir. Moi, je me cache en apprenant ça à des plus petits, en lisant avec eux. Comme ça m'intéresse. Et en même temps, je leur fais croire que c'est pour eux que je les aide à lire.
On accompagne les premiers lecteurs souvent.
On les accompagne là-dedans.
Mais c'est notre plaisir de savoir que les adultes ont aussi du plaisir à le lire. Parce que dans le fond, la découverte, ça n'a pas d'âge.
Oui.
Dans le fond, avec un magazine comme Les Explorateurs, c'est un peu ce que ça nous rappelle. C'est qu'on se remet... On se remet vraiment en mode exploration, c'est le cas de le dire. On redécouvre, on ouvre plein de fenêtres, dans le fond, pour laisser aller notre curiosité, puis porter notre intérêt sur plusieurs choses. Donc, c'est bien pour les enfants, mais c'est bien pour les adultes de retrouver cet émerveillement-là.
Mais oui, alors parlons-en de ce magazine qui existe depuis combien de temps et qui est.
Le magazine existe depuis une vingtaine d'années. Qui a été fondé en 2001. Ce qu'on disait, le petit frère du magazine Les Débrouillards, mm-hmm. qui existe depuis maintenant 40 ans. Donc, on connaît évidemment là, la, l'émission de télévision qui a passé à Radio-Canada il y a près de 20 ans également.
Je suis un enfant des débrouillards.
Voilà. Donc, vous connaissez. Et le groupe Publication BLD publie également depuis quelques années un magazine pour adolescents qui s'appelle Le Curium. Mais pour en revenir aux explorateurs comme tels, donc c'est vraiment notre publication qui est destinée aux premiers lecteurs aux 6 à 10 ans. Donc, c'est vraiment contenu scientifique. Là. On néglige rien au niveau de la validation des faits puis de l'exactitude des informations, mais on est bien conscient que notre lecteur n'a pas nécessairement toute la gamme de références qu'un adulte veut avoir. Donc, on le prend vraiment par la main pour l'accompagner dans sa découverte. On lui présente des choses, évidemment, qui sont extraordinaires, qui sont belles pour l'inciter à lire. Et évidemment, on sait qu'on l'accompagne comme lecteur. On sait que pour lui, lire, des fois, ça prend beaucoup de, passez-moi l'expression, de jus mental.
Oui.
Pour concentrer, des fois, quand c'est paragraphes, ils sont grands. Donc, on prend ça en charge. Puis, dans le fond, c'est de cultiver le plaisir de découvrir, prendre l'habitude de lire, de s'intéresser. On va penser nos articles, par exemple, pour qu'il y ait plusieurs portes d'entrée. Bon, ça peut être parfois le bas de vignette qui va nous intriguer, ça peut être l'image, ça peut être le titre. Donc, l'équipe travaille vraiment pour que le lecteur soit stimulé puis s'intéresse à la lecture.
Alors,
on est publié une fois par mois, exception fait de l'été où c'est un numéro qui compte pour 2 mois. Et puis sinon, on s'intéresse à la science, à la nature, mais aussi à plein d'autres choses.
Mais j'ai vu, parce que vous mettez au niveau de ce magazine, qu'il est publié 11 fois l'an, mais qui compte aussi 2 hors-série. Un hors-série qui est consacré aux innovations technologiques. Alors ça doit passionner. Puis ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est bien que les plus vieux le lisent, parce que je pense que, enfin, je parle de moi là, je pense qu'on est moins à même de comprendre des innovations technologiques que des jeunes qui ont 10, 12 ans ou 14 ans. Voilà.
Oui, tout à fait. Puis en fait, l'autre hors-série, c'est Explo Monde. Donc encore là, on va chercher le lecteur avec ses intérêts. Pour certains lecteurs, le fait d'avoir un sujet passionnant comme ça peut être par exemple la technologie, là, on sait qu'il y a des enfants qui ont vraiment une affinité avec tout ce qui est technologique. Bon, ben, c'est dans le fond la porte d'entrée pour découvrir plein de choses. On va s'intéresser, le dernier par exemple parlait de l'agroalimentation, mais on ne sait pas nécessairement le lien entre la terre puis toute la phase technologique dans le fond qui soutient toute cette industrie-là. Donc, il y a vraiment des belles découvertes à faire.
Ah oui, mais j'en doute pas une seconde. Ça fait combien de temps que vous êtes rédactrice en chef de ce magazine?
Ça va faire 4 ans et 10 ans dans la boîte BLD. Donc, moi, je suis vraiment une journaliste généraliste qui, à un moment donné, s'est passionnée pour la science. De fil en aiguille, je suis passée du côté de la santé. Puis ensuite, et voilà, la porte est ouverte. Je devais être là pour 1 an, puis je suis jamais repartie.
Et en fait, qu'est-ce qui vous tente, vous, personnellement, dans le fait de parler à des enfants de cette tranche d'âge? C'est peut-être le moment où ils sont le plus éveillés, en plus.
En fait, j'aime beaucoup la disponibilité de ces lecteurs-là, qui n'ont pas d'a priori, qui sont curieux de tout, ils ont une belle générosité, là, franchement, d'accueil. La minute qu'on les intéresse un petit peu, c'est vraiment wow. Quand ils nous aiment vraiment d'amour, là. Permettez-moi l'expression.
Oui, oui.
Ils sont très attentifs, très participatifs. Puis c'est l'occasion aussi de former la prochaine génération, j'oserais dire en toute modestie, mais de les éveiller sur des choses importantes du quotidien, la science, entre autres. Je trouve que j'y crois vraiment. Tu sais, ça forme quand même les citoyens de demain. Donc, on essaie de leur mettre entre les mains un contenu qui est crédible, qui est bon, qui va leur donner des outils aussi dans la vie pour se former, pour déposer une première couche, je dirais, de connaissances, pour bâtir là-dessus. Donc, pour moi, c'est très gratifiant.
Ben oui, j'en doute pas.
On reste longtemps attaché, parce que j'ai de magnifiques souvenirs des débrouillards. Et quand les explorateurs sont arrivés, il y a aussi le fait que ce soit un magazine et qu'on puisse tenir le magazine, et surtout qu'on puisse le faire livrer. Moi, on les reçoit par la poste.
Ah oui.
Et il y a quelque chose dans le fait de recevoir un magazine par la poste, et que on leur dit toujours de vérifier leurs sources. Là, on a une source qui peuvent, une source tangible, en fait.
Oui, c'est
tout
vrai.
À fait. Tout à fait. Le magazine, c'est comme un petit cadeau chaque mois. C'est un rendez-vous de lecture chaque mois. Je pense entre autres à certaines chroniques ou certaines bandes dessinées chez nous qui sont très populaires. C'est le moment où on va retrouver Hugo et Marjo. Que font-ils ce mois-ci? Puis le fait de, comme vous dites, d'avoir l'objet tangible entre les mains, ça, à un moment donné, on se demandait est-ce que tout va être sur tablette et sur un support électronique. Eh bien, non. Je pense que le livre et le magazine auront toujours leur place. C'est merveilleux de pouvoir aussi se le partager entre les mains des gens de la famille aussi. C'est papa, c'est le grand frère, c'est hop, ça devient un objet qui fait partie du quotidien, c'est un objet d'échange.
Puis après, on le comptabilise parce qu'on le reçoit chaque mois, puis on le garde. Donc après, ça commence à faire une petite...
Une petite
collection dans la chambre à coucher. Avant qu'on parte en musique, une dernière petite question. Rédactrice en chef, ça englobe quoi dans ce magazine? C'est-à-dire que vous contrôlez tout ce qui est mis dans ce magazine?
Ben, il y a beaucoup l'aspect conception, choix des sujets, choix des angles, commande des articles, validation des faits, évidemment, mais je travaille avec une équipe qui est formidable, j'ai une directrice artistique qui va voir à tout toute la logique de l'image aussi qui va avec ça. Ça prend un support qui est vraiment, qui doit parler de l'image et doit communiquer quelque chose pour des lecteurs de cet âge-là, parce qu'on les aura pas autrement. Ce sont des collaborateurs, des illustrateurs, donc s'assurer, c'est un peu le chef d'orchestre, je dirais, s'assurer qu'on arrive aux presses au moment opportun. Je voudrais rajouter un truc aussi par rapport au fait de garder le magazine, c'est que souvent le magazine, on le lit pas nécessairement d'un couvert à l'autre. De temps en temps, on le lit, on va garder quelque chose, puis ensuite on va le ranger, puis à un moment donné, hop, on va le ressortir et on va retrouver autre chose. Puis dans la logique d'apprentissage d'un enfant, ce côté boucle de rétroaction-là est bien important.
Ben en fait, on le lit d'une couverture à l'autre, mais pas dans une seule lecture. Puis c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, on peut 5 ans plus tard retourner et finir finalement...
comprendre autrement,
Attacher la boucle à la fin. Là,
exact. C'est comme ça qu'on attache les souliers. D'accord.
Alors, Claudia, on va faire une pause musicale. Puis on se retrouve tout de suite après et on continue l'entrevue. Alors là, on va partir en musique avec les Beach Boys qui nous chantent Busy Doing Nothing.
Busy Doing Nothing.
Oh là là, il me fait tout répéter.
I had to fix a lot of things this morning, 'cause they were so scrambled. But now it's okay, I tell you I've got enough to do. The afternoon was filled up with phone calls. What a hot, sticky day. The air is cooling down. Take all the time you need. It's a lovely night. If you decide to come, you're gonna do it right. Drive for a couple miles. You see a sign and turn left for a couple blocks. Next is mine, you'll turn left on a little road. It's a bumpy one, you'll see a white fence. Move the gate and drive through on the left side. Come right in and you'll find me in my house somewhere. Keeping busy while I wait. I get a lot of thoughts in the morning. I write them all down. If it wasn't for that, I'd forget them in a while. And lately I've been thinking about a good friend I'd like to see more of. I think I'll make a call. Couldn't find it, so I sat and concentrated on the number, and slowly it came to me. So I dialed it and I let it ring a few times. There was no answer, so I let it ring a little more. Still no answer, so I hung up the telephone, got some paper and
mais c'est beau, Mathieu. On t'entend tous siffler. Mais on sait que c'est toi parce que c'est pas moi qui savais siffler comme ça.
Non.
Donc on est
non,
encore
ça, c'est
avec...
l'air qui rentre dans une oreille qui sort dans l'autre.
On est toujours avec Claudia. J'espère qu'elle n'est pas partie, hein, t'écoutant.
Non, je suis toujours là. Quelle belle chanson.
Alors, Claudia, comment les explorateurs en sont venus à rejoindre Mission Milton?
C'est une belle histoire, en fait. Pour vous raconter un petit peu le début de ça, c'est que nous, vous voyez dans nos sondages annuels, la correspondance qu'on a avec nos lecteurs, que je vous disais tout à l'heure, qui, quand ils nous aiment, ils nous aiment, ils nous écrivent, ils nous envoient des messages, des courriels. Puis, ils nous disaient qu'il y avait quand même une préoccupation pour l'environnement. Puis surtout, on sentait qu'il y avait envie de faire quelque chose, un geste pour la nature. Mais quand on a 8 ans, c'est pas si évident, là. C'est pas nous qui étions en
charge. C'est déjà même pas évident quand on est plus vieux.
Voilà. Donc, mais on n'a pas le contrôle sur les décisions de la famille. Par exemple, on décide pas des moyens de transport ou de ce qui va être dans le panier d'épicerie. Donc, mais ils voulaient faire quelque chose. Donc, on s'est mis à dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour faire un geste réel, concret, qui va faire une différence? C'est bien faire un dessin, mais faire quelque chose qu'ils vont sentir utile. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Donc, si on se souvient, l'année passée, on est en temps de COVID et on est en classe bulle. Et on se disait, mais peut-être que faire une petite activité dehors à l'extérieur de collecte de déchets, c'est facile. C'est pas trop d'organisation non plus pour les parents. On peut le faire avec quelques amis. On n'a pas besoin de matériel. Donc, peut-être que ça serait quelque chose à leur portée. Donc, nous, on connaissait le point de vue des enfants, mais on avait besoin d'avoir quelqu'un qui avait l'expertise de terrain. Puis c'est comme ça qu'on a pensé à Mission Milton. Et quand on s'est parlé, on s'est rendu compte que tous les deux, on était tout à fait... Eux avaient envie de s'adresser aux enfants, puis nous, on avait envie de faire quelque chose comme ça. Donc, franchement, c'est la constellation des étoiles était parfaite. C'est, voilà. Puis donc, on s'est lancé en se disant, bon, ben on va viser 1000 collectes, 1000 gestes d'enfants. Si on a 1000 gestes d'enfants, ça serait déjà
1000 gestes d'enfants, c'est joli, ça.
Donc, c'est d'où le nom 1000 gestes pour la nature. Puis pour nous, un geste, c'est le fait de faire une collecte. De ramasser soit un petit sac, un gros sac, un container, n'importe quoi. Là. Mais je veux dire, peu importe la grosseur du geste, c'était pas grave. C'est de faire un geste une fois pour la nature. Donc, comme je disais, on visait 1000. On a eu 1000 à la première semaine, donc on était vraiment épatés. Ça venait de partout au Canada, des familles, des classes. Et au bout des 6 semaines, on a eu 6000 gestes, au-dessus de 6000 wow. gestes. Donc on était complètement éblouis. Et on s'est dit, il faut revenir absolument l'année prochaine avec une deuxième édition. Donc, et cette année, ça va très bien aussi. Juste avant d'entrer en onde, j'ai vérifié, on était à 3766 gestes après une semaine. Donc, on est déjà à la moitié de ce qu'on avait fait l'année passée. C'est très bien. Donc, c'est tout simple pour les gens qui veulent participer. Donc, il s'agit de faire un petit ramassage avec les enfants, de se prendre en photo. Dans le fond, la photo est comme la preuve de l'activité.
De ce qu'on a ramassé?
De ce qu'on a ramassé, ou nous en train de faire la collecte, ou c'est juste une photo qui parle de ce geste-là. Évidemment, elle n'est pas publiée si on ne veut pas. C'est juste comme, c'est ça qui fait l'inscription, qui fait foi de l'inscription. Et ensuite, on s'inscrit sur le site de 1000gestespourlanature.com.
Alors, dans les gestes, alors là, je vais parler d'une chose qui n'est pas très, moi, personnellement, me fait pas sourire, puis je pense que je suis pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a énormément, depuis l'histoire de la COVID, de personnes qui se permettent de jeter leur masque par terre, sans en prendre soin n'importe où, voire même au bord de l'eau, voire même, aucun respect de la nature là-dessus. Donc, vous avez dû en trouver pas mal.
Ah oui, on a une bonne récolte de masques. Évidemment, on demande aux gens d'ailleurs d'être prudents, aux enfants de se mettre des gants ou d'avoir des pinces, comme des pinces à barbecue, par exemple,
voilà.
Pour prendre
des pinces
avec leurs
masques.
Des pinces à salade, évidemment, pas manipuler ça à main nue. Mais il y a toutes sortes de choses. Puis c'est un aspect qui est intéressant aussi de cette activité-là. C'est que quand on ramasse des déchets comme ça, on prend conscience de nos gestes aussi à nous. Tiens, une bouteille d'eau, tiens, un pot de yogourt, tiens, un emballage de chocolat. j'en ai moi aussi. Des fois, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je peux réduire ma consommation? On devient... c'est une façon de vraiment de se conscientiser puis par rapport à sa propre utilisation.
Mais oui, puis les enfants, des fois, peuvent dire aussi aux parents qui, parfois, sont en voiture et jettent nonchalamment quelque chose par la vitre de la voiture parce que je l'ai vu faire, je le dis parce que je l'ai vu faire. Oui, malheureusement. Donc, peuvent leur dire, pas bien. Pour la planète, oui. C'est pas bien, on garde. Et recevoir une leçon d'un enfant qui a entre 6 et 10 ans, c'est assez humiliant. Ça permet de faire attention.
Mais c'est, je pense que les habitudes, c'est comme ça. Mais ça passe à travers les jeunes générations qui, à un moment donné, font la différence. On l'a vu, ça, ces changements-là, avec ne serait-ce que le recyclage ou encore le tabagisme. Quand les enfants nous disaient « Oui, mais moi, je l'ai appris, ça, c'est pas bien. » Oui. C'est sûr que ça fait une différence.
Habituellement, on le sait tous que c'est pas bien, mais c'est vrai que de se le faire dire par un enfant...
Oui. Moi, je trouve ça plus humiliant.
Ben oui.
C'était par un flic. Là, en fait, on est un peu gênés, là.
Et un enfant va relever les contradictions aussi. Ça, ils sont très, très bons là-dedans.
Oui.
Oui, de la parole des gestes, ils sont capables de le percevoir. Ce qu'on a eu de très beau aussi dans les commentaires là, d'une année à l'autre, c'est que certains enfants nous ont dit « Ben moi, je l'ai fait, mais j'ai continué à le faire, même s'il n'y avait pas le défi. » Donc, on dirait qu'à un moment donné, pour eux, c'était rentré un petit peu dans leurs habitudes. Je vais aller faire mon geste, je vais en ramasser, je me refais une autre collecte. Ben ils deviennent aussi sensibles à ce qu'il y a autour d'eux.
Mais c'est, oui.
Ils le voient.
Oh non, non, je ne vais pas vous interrompre.
J'adore parce que je trouve ça super bien. C'est...
Parce que tu sais, moi je vis à Montréal, puis une fois par année, il y a le nettoyage des ruelles.
Oui.
Et dans ma ruelle arrière, je vois les enfants avec lesquels on a lavé la ruelle l'an passé, qui sont déjà en train de ramasser la ruelle sans qu'on leur demande. Ben,
je trouve ça formidable.
Ouais, exact. Ils ont comme créé une habitude, comme vous avez dit.
C'est ça. Puis ça, des fois, c'est uniquement le petit déclic que ça prend. On le fait entre nous, puis ça devient moins lourd. On se rend compte qu'on peut faire effectivement un petit geste qui va compter, puis ça ouvre les possibilités sur autre chose. Fait qu'une fois qu'on s'est rendu compte que tiens, ce bout-là, j'ai été capable de le faire, de l'intégrer dans ma vie, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? Ils deviennent très très sensibles à des enjeux comme ça. C'est très bien.
Ben, tant mieux. Parce que quand on fait après, je sors du contexte de Mission Milton, mais je veux dire, quand on fait des fêtes où on fait un jour pour la femme, ou un jour pour ci, un jour pour ça, qui commencent à comprendre que c'est un jour, ça ne veut rien dire, c'est toute la vie, toute l'année, tout le temps qu'il faut s'occuper de prendre soin des autres et de la Terre aussi. Voilà.
Oui, le jour de la Terre ne devrait pas seulement être le 22.
Oui, mais il ne devrait pas être que le 22.
22 avril, pardon, je suis rendue dans mon édition de juin, ça passe.
Non, 22 avril, ça vient de se faire.
Voilà, tout à fait. Bien, évidemment, on encourage, il y a encore du temps pour participer au défi. On l'a lancé un petit peu avant le jour de la Terre, là, dans la semaine du 8, pour justement donner l'occasion aux gens de le faire, mais ça se passe jusqu'au 24 mai.
On va en parler avec Lynn dans la prochaine demi-heure. Clean Morissette. Donc, merci beaucoup, Claudia, d'avoir été avec nous.
Mais merci à vous.
Ça a été un plaisir. Et puis, continuez tout ce que vous faites. Félicitations pour ce que vous faites.
Merci énormément. Merci
au revoir.
De nous avoir été à nouveau. Au revoir.
Au revoir. On part avec Paul Carniello qui nous chante « Elle est née ». voilà, donc c'était la fin de cette première demi-heure. On se retrouve, restez avec nous, on retrouve Lynn Morissette dans un instant. Elle est cofondatrice et chef scientifique du projet Mission Milton. Donc on continue à en parler avec elle. À tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Et voilà, donc nous venons d'écouter Sam Roberts Band qui nous chantait Spirit in the Sky. Et maintenant, nous sommes avec Lynn Morissette. Bonjour Lynn. Allô? Nicolas, est-ce que tu m'as perdu Lynn? Lynn,
oui.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Bonjour, ça
j'ai
va
dit
bien.
On a perdu Lynn, au secours, qu'est-ce qui se passe?
Ben oui, c'est parce que je vous écoutais en même temps à la radio.
D'accord. Alors, bon, vous êtes cofondatrice et chef scientifique du projet Mission Milton dont on va parler. Voilà, dont
oui,
on continue
oui,
de parler.
Oui. Parlons-en.
Alors, parlons-en. C'est vous qu'on écoute là-dedans, parce que c'est vous qui en êtes... Qui venait nous en parler, qui en est cofondatrice et chef scientifique. Qu'est-ce que ça représente, chef scientifique?
Bien, chaque scientifique, en fait, c'est de... Moi, mon travail, c'est de prendre les meilleures évidences scientifiques là, possibles, là, puis d'essayer de vulgariser ça le mieux possible pour faire comprendre un peu l'urgence ou la fragilité de notre planète, de nos océans, mais d'une façon inspirante et non pas trop éco-anxiétante. Je sais que ce n'est pas un mot, mais
oui,
on
mais
essaie
ça,
d'essayer
ça,
de,
ça veut dire.
De faire comprendre oui. par la beauté de oui. ce qu'on ne veut pas perdre, en fait.
Alors, ce qu'on ne veut pas perdre, c'est ce qu'on veut pas perdre, c'est les poissons, c'est les oiseaux, c'est tous ceux qui risquent de s'étrangler ou qui bouffent du plastique quand on jette n'importe quoi dans l'eau.
C'est l'eau aussi qu'on veut pas perdre.
L'eau aussi qu'on veut pas perdre. Donc, il y a beaucoup
oui.
de... Hein?
Ben, en fait, avec le plastique,
je veux pas casser le moral, mais
c'est que ça nous affecte de toutes sortes de façons différentes. Il y a tellement d'impact du plastique là, que ça, des fois, on a l'impression, ou peut-être qu'on se réconforte en se disant que c'est très, très loin, puis on pense à la pauvre petite tortue qui a mangé un sac de plastique, mais en fait, ça nous revient en pleine figure parce que c'est dans l'eau qu'on boit. C'est dans le poisson qu'on mange. Donc, à la fin de la journée, on en mange de ces déchets-là qu'on rejette à la mer. C'est pas, ça part pas ailleurs, là, puis ça n'existe plus. Le ailleurs, il est très... Il n'y en a pas d'ailleurs.
Non, il est là. Il est là tout près. Mais j'ai l'impression que faire ce projet aussi avec des jeunes, des enfants, j'ai l'impression qu'ils ont presque une conscience plus importante que nous qui... Enfin... que nous, plus adultes, des fois?
Ben oui. En fait, c'est à double de facette, si tu veux, parce que ces enfants-là, c'est la planète qu'on leur donne. Alors moi, j'ai toujours un malaise un peu de leur dire, ben faites attention à la planète. En fait, c'est notre faute si la planète est dans l'état qu'on leur donne. Donc, tout ce qu'on peut faire, le mieux qu'on puisse faire, parce qu'ils sont déjà ultra allumés, c'est de leur ouvrir le plus de portes possibles pour leur permettre de faire cette différence-là, au lieu de juste vivre avec l'éco-anxiété des problèmes qu'on a entre les mains là, au niveau mondial.
C'est vrai aussi. Et peut-être les faire partir en leur disant que eux, ils ont la solution. En même temps.
Oui, puis ça c'est tellement vrai. Ces jeunes-là, ils ont des idées qui sont extraordinaires. Puis je pense que nous, notre rôle, les adultes, c'est de les écouter et de leur donner les moyens de leur créativité et de leur ambition. Je travaille souvent avec des jeunes à différents niveaux, mais ça part des tout petits là, de ceux qui lisent justement les explorateurs. Et puis ça va jusqu'à des projets universitaires. Mais ces jeunes-là, ils ont une créativité. Des idées qui sont extraordinaires. Puis je pense que tout ce qui nous reste à faire à nous, c'est de les écouter, d'être sensible à ça, se rappeler qu'on leur lègue cette planète-là.
Ben oui.
Donc, il faut leur donner tous les moyens possibles puis les aider à rendre cette planète-là le plus en santé possible.
Quelle est la personne des moments, les enfants vous ont étonné sur des questionnements ou des idées ou des choses à faire qui pourraient être surprenantes vu leur âge?
Ben, vous savez, on le mentionnait tantôt, Claudia disait il n'y a rien de plus convaincant, ou c'est peut-être votre co-animateur, mais quelqu'un disait il n'y a rien de plus convaincant qu'un enfant qui dit ben là, écoute, il faut faire attention à la planète. Moi, je trouve que ça scie les jambes à chaque fois parce qu'on n'a pas le choix de faire quelque chose quand on se fait dire ça par ceux qui sont la prochaine génération. Et puis, il y en a tellement de la créativité. Il y a une jeune fille ontarienne il y a quelques années qui a gagné expo science après expo science à parler du plastique comme ça. Puis ça n'en est seulement qu'une, mais il y en a plein des exemples de ces gens-là qui s'intéressent aux problèmes, qui arrivent avec des angles ou des façons de faire qui sont différentes et puis qui font leur chemin, puis qui réussissent vraiment à changer le monde. Un exemple de ça, c'est le jeune Boyan Slat. Il avait 16 ans quand il a inventé une machine pour nettoyer tout le plastique qu'il y avait dans l'océan Pacifique. Au début, il a été reçu par la communauté scientifique un peu de travers parce que moi, je pense, je vais vous le dire là secrètement, je pense que les scientifiques étaient vraiment jaloux et auraient aimé avoir
ça aussi
à sa place. Mais ça a fonctionné. Il y avait 16 ans quand... Maintenant, il y en a 27. Mais oui. Il y avait 16 ans quand il a pensé à ça. Et puis, maintenant, sa machine, elle est déployée dans le Pacifique. Elle fonctionne. Et ça fait une réelle différence pour l'écosystème là-bas. Puis surtout, ça inspire plein d'autres gens à faire la même chose.
En fait, les lunettes que je porte sont faites de plastique recyclé de l'océan.
Ouais. Ah oui?
Ouais. Ouais, mais ça, c'est extraordinaire aussi, tu vois.
C'est probablement une machine comme celle-là qui a récupéré le plastique. Mm-hmm. C'est ça, vous avez raison. Puis... En fait, son invention touche toutes sortes de facettes de notre société qu'on ne peut pas soupçonner des fois. Là.
Oui, puis à la base de cette créativité-là, il y a quelque chose qui est crucial puis qui est super important. Puis j'aime ça rappeler ça tout le temps. Moi, quand j'étais petite, quand j'avais leur âge, à ces jeunes-là qui lisent Les Explorateurs, là, entre 6 et 10 ans, moi, mon idole, celui qui m'a fait découvrir les océans, c'est Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, avec ses films. Puis lui, il a dit « On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. » Et c'est tellement vrai. Alors, il faut être curieux, puis il faut connaître cet océan-là ou connaître cette planète-là pour avoir envie de la protéger. Donc ça, c'est un autre rôle que j'ai, moi, au-delà de faire de la science, c'est de diffuser justement cette science-là pour faire connaître la planète le mieux possible pour que après ça se déploie tout seul, cette créativité-là ou cette volonté-là de vouloir faire quelque chose.
Mais c'est ça, parce que finalement, c'est toujours ce qu'on dit, hein, la peur partira quand on aura la connaissance. À partir du moment où on connaît, on n'a plus peur, puisqu'on acte quelque chose, et eux,
exactement,
c'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis ça entraîne les parents, ce qui n'est pas mauvais non plus. Ça entraîne la famille autour, ce qui est encore moins mauvais.
Oui.
Donc comme ça peut être du nettoyage en intensif. Et où on en est du défi jeunesse, alors?
Le défi jeunesse, ça va super bien. Claudine nous donnait des chiffres tantôt. J'étais la première surprise. On a plus de la moitié de l'objectif de fait.
C'est ce qu'elle nous a dit
par rapport
à
ce qu'on avait l'année passée avec le 6000 gestes.
Il va peut-être falloir
puis
changer
ça,
le monde.
Ben, moi, je pense qu'on va le dépasser. Puis c'est extraordinaire. Puis ça fait des vagues. Puis c'est un phénomène. Bon, là, j'enlève mon chapeau de biologiste marine, mais je vous parle d'une preuve vraiment scientifique. Ça s'appelle du mimétisme social. Donc, c'est un peu comme quand on voit l'exemple de quelque chose qui marche, on a le goût de faire la même chose, surtout quand on est valorisé pour le faire.
Ah ben oui.
C'est ça qui se passe en ce moment.
Vous croyez qu'on va pouvoir se sortir de tout ce qui est jeté régulièrement dans les mers, les océans, les...
C'est une grosse question.
mais des fois, je suis complètement défaitiste. Et puis des fois, je veux croire en l'être humain et je me dis, si, on va y arriver.
Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des nettoyages comme ça, on a un triple impact sur l'environnement. Premièrement, ce qu'on nettoie, ça nettoie la planète. Le deuxième impact, c'est que quand on ramasse des déchets, on évite que ça se désagrège en plus petits morceaux, comme des microplastiques, par exemple. Puis ça, à l'heure actuelle, il n'existe aucune machine qui est capable de nettoyer ou de ramasser ça. Donc, on évite que ça devienne un problème irrécupérable. Puis le troisième impact que ça a, c'est que allez vous mettre les mains ou les pieds pendant une heure de temps dans des déchets à les ramasser, ça crée une réelle réflexion et un changement dans les habitudes de vie, une réflexion sur quoi faire puis comment faire les choses. Et ça change notre façon d'être puis notre façon de faire. Puis ça, c'est extraordinaire parce que là, on arrête de générer autant de déchets. Donc, c'est une espèce de thérapie choc aussi pour réaliser de l'impact qu'on a sur l'environnement.
Ah oui, complètement. Lynn, on va faire une pause musicale, puis on se retrouve tout de suite après.
Parfait.
Alors, on part avec Fishback qui nous chante « Un autre que moi ».
Découvert sur terre.
Voici de retour avec Lynn Morissette. Et maintenant...
Oui, je suis encore là.
Mais j'espère bien que vous êtes encore là parce qu'on a encore plein de choses à dire. Alors, j'ai eu le reproche de Mathieu Tessier, qui est là, mon chroniqueur ici, qui m'a dit, mais tu parles tout le temps, j'ai pas eu le temps de poser les questions. Alors là, vas-y Mathieu, pose tes questions.
Faut être juste. Si t'as des questions...
Moi aussi, je parle tout le temps.
Ben, on n'interrompt pas les gens qui sont intéressants. Donc voilà, comme ça que j'ai été éduqué.
Il dit vrai en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, il est seulement flatteur parce qu'il veut savoir. Il veut revenir la semaine prochaine.
Non, mais c'est pas vraiment une... En fait, est-ce que vous avez pensé que de changer le nom? Parce que là, Milton, ça finit par être dépassé en une journée. Là. Peut-être 10 000 tonnes?
Non, mais il y a toute une histoire là-dessus. Au départ, quand la mission Milton, elle a commencé à l'été 2018, en fait, on a décidé ça là, fin avril en 2018. Et Jimmy Vigneux, le cofondateur, m'appelle à un moment donné pour me dire « Écoute, Lynn, toi, tu es une scientifique, là, tu connais le problème. » Moi, j'étais un peu tannée de documenter les impacts parce que le gros de ce que j'ai fait dans ma carrière en biologie, c'est de documenter l'impact sur, par exemple, les mammifères marins qui ont ingéré du plastique ou le stress toxique que ça peut être. Bon, je faisais vraiment dans la biologie, la physiologie animale. Puis un jour, Jimmy m'appelle puis il me dit « Moi, Lynn, là, j'en peux plus de partager sur les réseaux sociaux, mon indignation. Tout ce que je fais, c'est voir des nouvelles puis repartager. Puis j'ai l'impression que c'est pas assez. » Donc, il me dit, j'ai envie qu'on s'associe ensemble pour ramasser 10 tonnes de déchets dans les cours d'eau du Québec. Est-ce que ça te tente? Puis là, j'ai dit oui. Puis après, j'ai fait comme, ben, dans quoi je viens de m'embarquer? Je vais tout passer mes fins de semaine à faire ça. Mes week-ends, mon été, mes vacances, ça va aller jusqu'à l'année prochaine. Puis je vais juste ramasser des vidanges. Puis finalement, on l'a fait. Puis ça a pris 75 jours, ramasser 10 tonnes. Parce que c'est devenu, au-delà de Lynn et Jimmy ramassent des déchets, c'est devenu un mouvement social. Et puis... moi, je vulgarisais les enjeux, puis pourquoi c'est important de faire ça. Puis Jimmy rajoutait là, la couche là, d'entraînement populaire là, qui nous permet d'avoir l'impression de faire partie d'une solution. Puis ça a vraiment marché. Donc, le premier changement de nom, on l'a fait au bout de 75 jours. On a été obligé de changer de nom pour Mission 100 tonnes. Puis l'année dernière, il y a un de mes amis qui est pêcheur de crabe des neiges au Nouveau-Brunswick qui me dit, moi, je suis partie avec mes amis, là, puis on était déjà là, dans le 90 avancé tonnes. Puis il me dit, je suis allée ramasser des engins de pêche abandonnés puis toutes les affaires qui traînent sur les plages au Nouveau-Brunswick. Puis là, je dis, ben Stéphane, combien t'en as ramassé? Mm-hmm. Puis là, il dit, ben, on a fait un 4 tonnes et demi. Puis là, j'ai fait, oh, on est obligé de changer de nom.
Oui, une personne, 4
donc,
tonnes
là,
et demi.
Donc là, je pense qu'Émission Milton, on va le laisser comme ça, puis ça va être un, on rajoutera un S au 1000. Mais on ne peut pas changer de nom comme ça tout le temps parce que administrativement, je vous dirais que c'est assez compliqué.
Oui, ça aussi, c'est vrai.
Ça crée de la paperasse, puis on ne veut pas...
Pas en rajouter encore, hein? Parce que qui dit papier dit arbre. Enfin bref, on peut en faire une.
C'est ça, mais... c'est ça, on ne veut pas. On ouais, veut pas.
Mais même à ça, moi, j'ai de la misère à figurer à quoi ressemble 1000 tonnes. Juste 1000 tonnes dans ma tête, j'ai aucune idée à quoi ressemble 1000 tonnes de déchets. C'est une piscine olympique, c'est deux piscines.
C'est 1000 fois une tonne.
Oui, merci Arlette, c'est très ben, assez.
100 tonnes, c'était deux stades de football au complet, mais en fait, c'est d'un point de vue scientifique. C'est très difficile de vous donner une analogie un peu populaire parce que une tonne de styromousse, c'est pas, ben, ouais, ça peut c'est remplir ça. Une ville au complet. Une tonne de métal, c'est d'autres choses. Donc, si on fait une moyenne là, avec les différents types de déchets qu'on retrouve dans nos nettoyages, là, je vous dirais que c'est à peu près, ça doit être l'équivalent d'à peu près 10 fois le stade olympique.
Avez-vous une idée de la grosseur des... La grosseur des déchets en général, est-ce que c'est gros comme une boîte de Kleenex ou vous avez...
Mais il devait avoir de
petit?
Tout parce qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui se laissent aller là-dedans. Hein.
Oui.
Oui, mais il y a tout, puis ça dépend. Il y a des caractéristiques régionales aussi, je vous dirais. Là, il y a un volet à la mission Milton où on commence à essayer de faire de plus en plus de science pour documenter les sources puis les types de déchets avec lesquels on doit composer dans l'écosystème. Mm-hmm. Et puis, il y a des caractéristiques régionales. Moi, j'habite au Bas-Saint-Laurent, puis je vous dirais que chez nous, on retrouve souvent des cartouches de fusils pour la chasse aux oiseaux migrateurs, la chasse à l'oie blanche, tout ça. Mm-hmm. Des capsules de tampons, ça, il y en a à peu près partout. Quand on va aux îles de la Madeleine, il y a beaucoup de débris, de filets de pêche. Des fois, c'est dans les tempêtes que ça, c'est comme ça passe par-dessus bord. Ou encore les fameux élastiques qu'on voit autour
des brocolis,
des pinces de homard.
Oui.
Oui, c'est ça, des brocolis peut-être, mais je vous dirais que la grosse production aux îles de la Madeleine, c'est plus le homard que le brocoli. On
non,
en trouve par centaines sur les plages.
Ah ouais.
Puis c'est ça, puis donc ça dépend, puis il y a des caractéristiques régionales, mais au-delà de ça, on trouve des pneus. Moi, à Rimouski, je me souviens quand j'étais petite, même un peu avant, parce que je ne suis pas si vieille que ça, mais dans les années peut-être 60-70, quand la voiture était plus bonne, on n'allait pas la porter au dépotoir, on la balançait au bout du quai ou dans une falaise qui tombe à la mer. Donc ici, on trouve des transmissions, des pneus, des vieux morceaux de carcasses de voiture. Parce qu'à l'époque, quand on ne voyait plus, quand ça partait sous la surface de l'océan,
ça n'existait
plus, puis le problème était réglé.
Oui.
Ouais.
Quand c'est des gros
donc
morceaux
ça,
comme
c'est
ça,
lourd.
On sait que c'est volontaire, mais comme des élastiques, je pense pas que ce soit que c'est des milliers de personnes qui jettent leurs élastiques.
Choses,
c'est
et puis
juste
les oiseaux se prennent les pattes dedans ou bien les bouffent ou les poissons les bouffent.
Rapidement, moi, je regarde ma rue l'hiver et quand le printemps arrive, je vois que...
Ah, quand la neige fond, c'est terrible.
Oui, puis après ça, j'ai réalisé que c'est quand ils nettoient les trottoirs, qu'ils ramassent les sacs de accidentellement, qu'ils accrochent un sac de recyclage. Et là, toute ma ruelle est couverte de papier.
Oh là là.
Fait que des fois, les gens font attention, mais voilà.
Il faut faire beaucoup de choses et ce que vous faites, c'est formidable. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Parce qu'on arrive à la fin de cette entrevue, Lynn, et on aurait bien parlé plus longtemps, mais on n'a plus de temps.
On pourrait faire 2 heures là-dessus.
On pourrait faire 2 heures là-dessus.
Deux tonnes.
On y pensera pour la prochaine fois. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, l'une comme l'autre. Merci vraiment. Et puis, pensez-y,
d'être curieux puis de poser des questions parce que c'est ça, au final, qui nous fait bien comprendre l'écosystème puis le protéger.
Entendu. Merci beaucoup, Lynn. Bonne soirée. Au revoir. On part en musique avec les Ogres de Barbac qui nous chantent Carlos Mervi.
J'ai volé commissaire une paire de bottes. En classe de notable,
en cuir véritable, en vache pas d'étable, dérobé commissaire les lingots et la dot. À la famille en cerne, je leur ai laissé terne, leur jolie fille en berne, j'ai tapé commissaire des têtes de linotte. Des hommes de prière, des agents et leurs frères, des banquiers, des notaires, j'ai triché commissaire au parti de belote. Je me suis fait la belle, le magot sur la selle, sans revanche ni belle, je voulais commissaire une vie qui gigote. Mourir trentenaire, poussière sans cimetière, pas un vieux qu'on enterre, je trouvais commissaire que la vie est trop sotte. Si je voulais survivre, il me fallait des vivres que personne ne livre. Découvert commissaire que le ciel complote. Lorsqu'ils se mettent à table, les anges et puis le diable s'arrangent à l'amiable. J'ai tenté commissaire diverses anecdotes. De vieilles qui s'affichent, fiers de n'être que riches, j'ai posé commissaire tout au fond d'une grotte. À l'aide d'une pêche, de la terre bien fraîche, sur des liasses de fraîche, je savais commissaire que le danger se frotte. Aux vies exceptionnelles, destin inhabituel, aux plus belles des belles, épargnez commissaire mes poignées de menottes. Terminons, gentlemen, la prison se réveille, profitons de nos peines. Terminons commissaire sans discussions idiotes. Une balle bien mûre au cœur de ma nature, loin de vos quatre murs, vos bâtons commissaire valent bien mes carottes. Et les miennes sont cuites, sans issue que la fuite, et de mourir vite.
Longtemps.
Et voilà, ça faisait longtemps
qu'on les avait entendus, eux.
Oui, c'est vrai, ça faisait un bout, c'est vrai. Donc, merci pour ça, Nicolas. Bah, je vais te remercier dans un instant. Nous sommes à la fin de cette émission. Donc, d'abord, on remercie Claudia Morissette et Lynn Morissette. Vraiment, vous avez été passionnantes, mesdames. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Et puis, c'était surtout extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci,
Arlette. Mathieu Tessier, d'avoir été avec moi pour ça. Merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Et puis, bien sûr, un gros, gros merci à vous toutes et tous qui nous suivez. Puis je vous dis à demain, puis Mathieu vous dit à la semaine prochaine. Et avec Nicolas, nous on vous dit à demain. Bye.
Ciao.